Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse au dernier rapport sur le commerce et le développement que vient de publier l'ACNUSED, c'est-à-dire l'organisation onusienne en charge de ces questions. Le document met l'accent sur la mobilisation de recettes fiscales intérieures qui sont bien plus fiables que l'aide publique au développement, mieux gérables que la dette et moins exposées que celle-ci aux conditions qui restreignent la marge d'action des États. Et pour nous en parler, Alpha Diallo a tendu son micro à Alfredo Calcagno, chef du service des politiques macroéconomiques et des politiques de développement à l'ACNUSED.
Alfredo Calcagno, vous êtes chef de la section macroéconomique de la division de la mondialisation et des stratégies de développement de la CNUSED. Ce nouveau rapport de la CNUSED sur le commerce et le développement aborde le problème de la fiscalité du programme de développement pour l'après 2015. Tout d'abord, vous, quel est votre message principal pour ce rapport?
Le message principal du rapport, c'est que le monde n'a pas encore trouvé un nouveau mode de fonctionnement économique après la grande crise de 2008-2009. Il y a donc des politiques qui doivent être révisées aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. On se rend bien compte qu'on n'arrive pas à stabiliser un régime de croissance soutenable avec des politiques d'austérité et de compression des salaires au nord et avec juste une politique monétaire très expansive qui, par contre, cette politique monétaire peut avoir des impacts sur les économies des pays en développement. Donc là, il y a quelque chose que dans le Nord n'est pas en train de bien marcher, qu'il faudrait réviser. Mais dans les pays en développement aussi, on se rend compte qu'ils ne peuvent pas croître comme avant la crise, comme si rien ne s'était passé. Il faut qu'ils s'adaptent à une nouvelle situation, une situation où ils ne pourront plus compter avec une demande très dynamique des pays du Nord. Donc, il faudra regarder le commerce sud-sud, le développement des marchés internes et des marchés régionaux, en plus, non pas au lieu d'eux, mais en plus des marchés du Nord. Et aussi, il faut qu'ils réforment leur système productif pour s'adapter à cette nouvelle réalité et pour poursuivre, disons, les vieux objectifs du développement avec industrialisation, des développements des services modernes, changement structurel pour plusieurs pays, urbanisation, développement des infrastructures économiques et sociales. Tout ça reste absolument d'actualité et ce sont les gouvernements qui doivent prendre la tête de ce mouvement de changement. On ne peut pas laisser, surtout dans une situation de crise, les marchés décider tout seuls. Disons, il faut qu'il y ait une politique de développement, il faut qu'il y ait donc des États présents dans la politique économique qui encadrent et qui encouragent l'initiative privée. Et il faut aussi qu'ils puissent financer tout ça. Il lui faut avoir un espace de politique, enfin des marges de manœuvre pour pouvoir appliquer des politiques industrielles, mais il faut aussi qu'ils puissent les financer. Alors la première partie, qu'ils en aient le droit, disons, ça a à voir avec les restrictions que pose parfois l'Organisation mondiale du commerce ou les traités bilatéraux ou régionaux qui sont parfois signés par les gouvernements et qui, en quelque sorte, limitent la possibilité d'appliquer certaines politiques. Alors on discute dans le rapport dans quelle mesure on peut quand même les faire, mais en plus, il faut que ces gouvernements aient la possibilité de dépenser. La possibilité de dépenser en infrastructure, en éducation, en recherche et en investissement, en crédit pour le secteur privé. Donc tout ça appelle à se demander d'où sortent les ressources. Et ce que le rapport dit, c'est que les ressources, il faut surtout les chercher chez soi, plutôt que par l'aide ou par la dette, parce que très souvent, il y a plus de possibilités qu'on n'en pense. Et ce qu'on voit dans les pays en voie de développement, c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui pourraient renflouer les caisses de l'État qui se perdent. Et elles se perdent en particulier à travers les paradis fiscaux.
Et sur ce point, donc, la recherche de financement, ça peut être les impôts, c'est la fiscalité. Et sur un aspect de ce rapport, la CNUSED plaide pour l'adoption de politiques nationales et multilatérales pour arrêter ce que vous considérez comme une hémorragie fiscale. C'est-à-dire, quels sont les contours de cette hémorragie et comment se manifeste-t-elle?
Alors, on analyse essentiellement deux choses dans le rapport, parce que ça nous paraît que les gros sous passent par là. Un aspect, c'est comment les paradis fiscaux enlèvent la possibilité d'obtenir des revenus par l'impôt. Il y a les ménages fortunés qui déposent leur argent dehors. Ça, c'est un aspect. Et puis, juste en disant, si on pouvait faire payer des impôts sur les revenus aux intérêts des montants très considérables qui sont déposés dans ces paradis fiscaux et qui ne sont pas déclarés, alors les États pourraient obtenir entre 190 et 290 milliards de dollars par an supplémentaires. Et les pays en voie de développement seulement pourraient, eux, obtenir entre 66 et 84 milliards. Alors rien qu'en mettant un impôt sur le revenu des intérêts qui ne sont pas déclarés. Ça, ça fait dans les deux tiers de l'aide publique au développement total. Mais en plus, il y a les entreprises. Les entreprises, surtout les transnationales, les grandes corporations, utilisent les paradis fiscaux aussi pour ne pas payer d'impôts. En créant des filiales ou en plaçant leur mise en mer sur ces paradis, des zones donc où il n'y a pas d'informations, qui ne sont pas coopératives pour les impôts ou qui ont des taux d'imposition très bas ou nuls. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce qu'on appelle les prêts de transfert. Dans les échanges interne à une transnationale, il faut bien dire combien vaut un service ou combien vaut un bien qui s'échange à l'intérieur de cette même entreprise qui est dans plusieurs pays. Alors, il y a un commerce international de biens et de services qui passe par les transnationales, mais avec des prix fictifs, parce que c'est le même acheteur et le même vendeur qui le décide. Alors, en manipulant ces prix, on peut faire apparaître les bénéfices là où on ne paie pas d'impôts. À travers ces mécanismes, on estime que l'évasion, rien que perdue par les pays en voie de développement, c'est dans les 160 milliards chaque année. Ça, c'est plus que toute l'aide publique au développement. Donc, il y a là une possibilité, si on avait la volonté politique essentiellement, de réduire ou d'arrêter une hémorragie. Nous, on n'est pas contre les transfusions. Parfois, c'est nécessaire. Il y a beaucoup de pays pauvres qui ont besoin d'aide publique au développement. Mais ça, c'est une transfusion. En plus de la transfusion, il faut arrêter l'hémorragie.
Est-ce que les enjeux de cette hémorragie sont les mêmes que l'on soit dans un pays développé ou bien dans un pays en développement? Parce que dans les pays développés, on insiste beaucoup sur l'hémorragie fiscale des individus, des citoyens, alors que dans les pays en développement, on parle beaucoup du problème rencontré avec les entreprises étrangères.
Oui, il y a une différence dans ce sens, c'est que beaucoup de ces paradis fiscaux sont situés dans des pays développés. Ce n'est pas une question marginale, quelques îles tropicales par-ci par-là. C'est dans le cœur du système financier mondial. C'est l'État de Delaware aux États-Unis, c'est la City de Londres, c'est la Suisse. Ce sont des États importants, des centres financiers très importants ou des satellites de grands États. Par exemple, Gibraltar, les îles Jersey et j'en passe. Tout ça, donc, est dans le cœur du fonctionnement du capitalisme mondial. Et si on veut vraiment le changer, alors c'est surtout une question de décision politique, plus qu'une question technique. Et les États-Unis, dans ses négociations avec la Suisse, a montré que s'il y a une décision politique, on peut passer outre au secret bancaire. Ça, c'est donc un aspect important, parce qu'il faut que les pays en voie de développement aient leur mot à dire de comment on va faire face à ce problème. Il y a certaines avancées qui ont été faites d'une plus grande transparence à partir de certaines initiatives de l'OCDE ou du G20. Mais de nouveau, là, ce sont surtout les pays développés qui font ces propositions ou les grands pays en voie de développement. Il faudrait que les autres aussi aient leur mot à dire et que les Nations Unies, donc, aient son mot à dire là-dessus. On se rend bien compte aussi que les pays développés ont intérêt à ce que les abus dans l'évasion fiscale soient contrôlés, parce qu'ils ont eux aussi des problèmes fiscaux après la crise. Donc, ils pourraient avoir là un terrain d'entente, disons, multilatéral pour prendre une décision, parce qu'il faut que ce soit multilatéral. Parce que si on enferme un paradis fiscal, ben, les entreprises ou les gens qui évadent vont aller à celui d'à côté. Et l'autre chose importante, c'est dans les industries extractives. Non, le pétrole et les industries minières souvent payent très peu d'impôts parce qu'ont reçu beaucoup d'encouragements fiscaux et de cadres fiscaux très favorables quand les prix étaient bas dans les années 90. Et donc, quand les prix ont augmenté à partir de 2002-2003, une très grande partie de ces revenus supplémentaires passaient à l'entreprise étrangère et pas au gouvernement. Alors, dans le rapport, on étudie pourquoi, dans certains pays, les gouvernements touche très peu de cette rente extraordinaire et dans d'autres, il touche beaucoup. Et on fait donc des propositions de comment il faudrait renégocier des traités ou augmenter la participation de l'État dans ces industries. On a calculé que lorsque l'État n'est pas présent fortement dans cette activité, les gouvernements capturent à peine entre 17 et 34% en gros des rentes. Quand je dis les rentes, c'est en plus des bénéfices normaux de l'entreprise. De cette manne que donne la mère nature, disons, ça ne reste pas dans le pays lorsque ce sont des entreprises privées qui l'exploitent. Lorsque c'est l'entreprise publique, alors normalement c'est les deux tiers ou plus.
Et pour terminer cette interview, nous avons juste terminé par cette question par rapport à ce que le rapport aborde sur le problème du programme de développement pour l'après 2015. Et l'une de ces recommandations est revenue par rapport aux efforts pour garantir aux États une marge d'action suffisante dans le système de commerce mondial. Et la CNUSET plaide pour une réforme de l'architecture financière mondiale. Est-ce une remise en cause de ce qui a été fait jusque-là, c'est-à-dire l'architecture financière mondiale comme on le voit à présent?
Le système financier international marche mal. Il faut donc qu'il y ait une meilleure régulation internationale des flux de capitaux. Il faut aussi permettre aux gouvernements des pays en voie de développement de réguler ces mouvements de capitaux. Alors, à présent, les règles de l'OMC ou du Fonds monétaire international, de l'Organisation mondiale du commerce, dans son accord sur les services, acceptent une régulation, surtout quand elle a un but de stabilité de leur système financier. Mais il y a d'autres accords, souvent bilatéraux, qui réduisent cette possibilité d'appliquer des contrôles de capitaux. Parce que les capitaux, c'est un peu comme un médicament pris en certaines doses et dans certaines circonstances, c'est utile. Pris dans d'autres circonstances et en doses massives, c'est un poison. Donc, il faut pouvoir gérer. Et les pays en voie de développement, il faut qu'ils puissent gérer pour que leur macroéconomie soit stable, pour qu'une entrée trop forte des capitaux n'apprécie pas trop leur monnaie et leur fasse perdre la compétitivité, pour qu'il n'y ait pas des bulles spéculatives dans ces pays qui mènent après à des crises financières. Il faut aussi qu'on puisse régler les problèmes de dette avec un critère multilatéral et pas un critère commercial décidé par parfois des juges d'un certain pays qui ne tient pas compte des intérêts publics, des intérêts globaux, des intérêts des peuples et se préoccupe davantage des intérêts de certaines catégories de créanciers, même si ce sont des fonds vautours. Il faut donc aussi, là, qu'il y ait une réponse multilatérale. La CNUSED plaide pour cela depuis plus de 20 ans. Et il faut aussi réviser les règles d'investissement dans lesquelles les gouvernements des pays cèdent leur juridiction pour que les entreprises fassent des cas contre les États dans des tribunaux d'arbitrage qui sont très déséquilibrés en faveur des entreprises. Une entreprise peut plaider qu'une certaine politique économique d'un gouvernement pour protéger l'environnement ou pour des questions de santé publique ou pour des questions de régulation macroéconomique comme une dévaluation par exemple, affecte leurs bénéfices et leurs intérêts et leur font payer alors des centaines de millions de dollars à ces gouvernements. Donc il y a là tout un système diffus qui est censé protéger l'investissement privé, mais qui limite la capacité des gouvernements à mener des politiques de bien commun, sous le prétexte que cela peut réduire les bénéfices des compagnies étrangères.
Voilà, et c'est avec Alfredo Calcagno de la CNUSED que se referme ce magazine Escale, un magazine présenté cette semaine par Jérôme Longuet, avec la collaboration d'Alpha Diallo et de Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien et les mises à jour de la radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.